Et devinez quoi, ce matin, ce que je vais vous dire a déjà été dit, donc on peut s'en aller. Non, j'aime ça, j'aime quand les choses concordent, quand l'Esprit de Dieu travaille dans son assemblée, quand il confirme ce qu'il veut dire. Matthieu 18, versets 21 à 35, la parabole du serviteur impitoyable. Nous avons vu dans les paraboles précédentes que Jésus, au début de son ministère, a commencé par annoncer, enseigner la venue du royaume. Il a ensuite démontré les effets du royaume dans la vie quotidienne. La vie quotidienne du peuple d'Israël. Et avec la parabole du semeur, on a vu quelle conscience Jésus avait de la réception de sa parole dans le peuple. Certains l'acceptaient, lui et son message, et d'autres le refusaient. Ensuite, on a vu avec la parabole de l'ivraie que Dieu permet que croisse ceux qui lui appartiennent autant que ceux qui suivent le diable. Mais qu'un jour, il prendra le temps et il fera le tri. Il y aura des pleurs et des graissements de dents, d'amers regrets. Notre parabole d'aujourd'hui se trouve dans la section de l'Évangile selon Matthieu, dans laquelle Jésus présente le royaume de Dieu comme proposant un renversement des principes que les disciples ont passé toute leur vie à observer. Un renversement qui bouleverse tout leur système de valeurs. Et hier, j'ai participé à un petit concert au bord d'une piscine, concert de gospel avec une chorale, et parmi les convives, il y avait un homme qui nous écoutait et avec qui j'ai pu partager quelques mots de ce que je vais vous partager ce matin. Et à la fin, il m'a dit, ce que tu me racontes là n'est pas possible. Il faut quelque chose en plus. Et il a raison. Il faut quelque chose en plus. Lisons Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Vous êtes là. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voudrait ou qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 100 malheureux deniers. Il se saisit de lui, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Toute la parabole repose sur la question de Pierre au début du passage. Et je suis persuadé qu'elle résonne à nos oreilles aujourd'hui encore. Lorsqu'on sait que le sujet du pardon est l'un des sujets très sensibles auxquels chacun de nous, tôt ou tard, devons faire face dans son cheminement avec le Christ. Et la question porte bien sur le nombre de fois qu'il faut pardonner au frère ou à la sœur qui m'aura causé du tort. Que faire lorsque ces situations se présentent ? Que faire lorsque je suis offensé, mais à plusieurs reprises ? Pierre complète sa question en posant un nombre de fois, selon lui, qui pourrait satisfaire à Jésus. Irait jusqu'à 7 fois ? Et on le sait bien dans les textes bibliques, le chiffre 7 est symbole de complétude, de perfection. Les rabbis, eux, à l'époque de Jésus, estimaient qu'on pouvait aller jusqu'à 3 fois pardonner les gens. Et donc Pierre, en proposant 7 fois, se montre quand même généreux. Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois à pardonner celui qui m'offense sans arrêt ? Mais c'était sans compter sur la réponse de Jésus, ou en tout cas sur sa perspective. Et pour l'expliquer, il leur propose cette parabole. La fin de notre passage nous permet de décoder un peu ce que Jésus dit ici des personnages. Il est question d'un roi qui se propose de demander des comptes à des serviteurs. Verset 35, la parabole est déjà terminée. Et il dit, Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Et donc là, Jésus identifie clairement le roi à son Père céleste, Dieu lui-même. Les serviteurs, qui sont-ils ? C'est nous. En tout cas, c'était les disciples à l'époque. Aujourd'hui, c'est nous, les serviteurs de ce roi, de ce Dieu à qui on demande de pardonner. Aujourd'hui, nous sommes ceux et celles à qui Jésus adresse cette parabole. Elle nous rappelle qu'un jour, Dieu viendra nous demander des comptes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que vous et moi oublions qu'un jour nous devrons nous tenir devant le Maître pour lui rendre des comptes de nos comportements, de nos attitudes, de nos jugements portés et tout ce qui s'ensuit. La réponse de Jésus a sûrement dû étonner les disciples. Eux qui étaient habitués à l'enseignement du « œil pour œil, dent pour dent ». On te fait, tu fais. À une juste mesure, mais tu fais. Quelques versets plus haut, Jésus venait de parler de la discipline du royaume. Il vient encore bouleverser leur conception du pardon des offenses en y introduisant la notion de dette. Une dette. Dans la parabole, nous faisons la connaissance de ce serviteur qui avait contracté une dette colossal, nous dit la parole, vis-à-vis du roi dont il était au service. Et cet homme, on nous dit, implore son roi de lui pardonner ou de lui donner du temps pour rembourser cette dette qu'il est incapable de rembourser. Il est question de 10 000 talents. Alors, je vais traduire pour vous. 10 000 talents, correspond à 6000 deniers de l'époque de Jésus. Je traduis encore pour vous. Un denier correspond à un jour de salaire d'un agriculteur à leur époque. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ramenons ça à notre quotidien aujourd'hui. Si je me base sur le SMIC, un jour de SMIC tourne autour de 64 euros et des poussières. Je multiplie ça par 6 000, ça donne environ 200 ou 300 000 euros. Je multiplie ça par les 10 000 talents et on en arrive à approximativement 4 milliards de nos euros d'aujourd'hui. Mais plus encore, le bonhomme était fonctionnaire. Un fonctionnaire gagne plus qu'un smicard, vous êtes d'accord? Pas de beaucoup, mais plus. Mais pour devoir 4 milliards, quand même. Et je pense qu'on peut facilement monter à 8 milliards d'euros aujourd'hui que ce serviteur devait à son roi. Impossible de payer ça. Même si tu avais 2-3 vies en plus, impossible de payer ça. Quel rapport avec nous, vous pourriez me demander. Le mot dette est une notion que les auteurs du Nouveau Testament utilisaient pour parler de péché. Et donc nous pouvons lire cette parabole avec la prière du Notre Père qui résonne dans Matthieu chapitre 6. Quand il est dit « Remets-nous », alors dans nos versions, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés ». Mais littéralement, le texte dit « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs ». Remets-nous nos dettes. Nous avons contracté une dette colossale vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'il nous dit dans le texte. Cette image de la dette qui symbolise le péché n'est pas seulement une blessure qui peut être profonde, soit. Mais ce n'est pas qu'une blessure, mais aussi un problème juridique devant Dieu. Entre l'offenseur et l'offensé. La parabole nous enseigne donc que non seulement nous étions des débiteurs envers Dieu, mais nous l'étions bien plus que nous le pensions. Bien plus que nous le pensions. Nous portions une dette qu'en aucune façon nous ne pourrions rembourser. Bien plus que nous pourrions même l'admettre. Je crois que le bonhomme ne réalisait pas, ne mesurait pas la dette qu'il avait contractée vis-à-vis de son roi. Nous ne réalisons même pas la profondeur du péché qui nous sépare de Dieu ou qui nous séparait de Dieu. Nous ne réalisons pas ça. Et Paul le dit comme ça dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 10 à 12. Il dit, il n'y a pas de juste. Si nous croyons être justes ou si nous croyons avoir été justes, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit Paul. Et les théologiens, qu'on appelle les pères de l'Église, dans l'Antiquité, ont inventé une expression pour décrire ça. Ils parlent de dépravation totale. Une expression barbare pour dire qu'à la suite de la chute, tous les hommes sont réduits à l'esclavage du péché à cause de leur nature pécheresse. Nous sommes réduits à l'esclavage du péché. Et que sans la grâce de Dieu, il est impossible de choisir de suivre Dieu. Alors on entend parler de libre arbitre et que je peux faire ce que je veux. Je peux choisir de suivre Jésus quand je veux. Je peux faire ci, quand. Chiche. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous permet de suivre Dieu. Ce n'est que la grâce du roi qui lui permet de remettre sa dette à son serviteur. Et même s'il aurait voulu payer, il ne pouvait pas. La dette était trop énorme, trop colossale. Depuis que le péché est rentré dans le monde, nous avons contracté cette dette immense vis-à-vis de Dieu. Et nous ne pouvons pas la rembourser. Dans la parabole, la grandeur de cette dette est matérialisée par la contrepartie proposée par le roi pour rembourser sa dette. Il s'agit de vendre comme esclave son serviteur, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il possédait. Et vous imaginez, aujourd'hui, nous disons que la vie d'un homme n'a pas de prix. C'est peut-être la valeur la plus inestimable que nous connaissions. Et pourtant, même vendre tout ça, femme, enfant, tout ce que j'ai, mon chien, mon chat, et même moi, ne suffit pas à rembourser la dette. Il pensait pouvoir rembourser. Il demande au roi un petit peu de temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire un petit peu de temps pour lui, mais rembourser 8 milliards d'euros en un petit peu de temps. C'est pour cela qu'aucune de nos œuvres, aucune des choses que nous pourrions proposer de faire pour rembourser notre dette vis-à-vis de Dieu n'aurait pu suffire. Rien de ce que nous pourrions proposer ne peut suffire à rembourser notre dette. De la même manière, en nous remettant notre dette, Dieu nous offre son pardon, il nous offre sa grâce librement, comme il a remis sa dette à ce bonhomme qui ne pouvait pas la payer. Et donc la réponse de Jésus à la question de Pierre peut intriguer. À la question « Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois pour pardonner à mon frère qui m'embête ?» Jésus répond « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Alors Jean-Pierre, tout à l'heure, a fait le calcul, 490 fois. Mais est-ce que Jésus vraiment voulait dire à Pierre qu'il fallait pardonner 490 fois? Va jusqu'à 490 fois et ça sera bon. Est-ce que vraiment c'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre? Est-ce que Jésus est en train de mettre un chiffre à atteindre où ton pardon sera bon? Là, tu peux arrêter, on passe à autre chose. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Notez bien que Jésus n'a pas pris des chiffres au hasard. 70, 7. Que nous savons être des chiffres dans la parole de Dieu qui symbolise encore une fois la complétude, la totalité. Et en réalité, ce que Jésus essaie de dire à Pierre, c'est que dans mon royaume, on ne tient pas de compte. On ne calcule pas ce genre de choses. Mesurer ton pardon comme ça, ça ne se fait pas dans mon royaume. C'est ce que Jésus essaie de dire à Pierre. Il n'est pas question de montant à atteindre pour laquelle on devrait dire « Stop, c'est bon ». Et moi, j'ai trouvé ça génial. Parce que lorsque je prends ma vie et que je la regarde et que je la retourne et que j'estime le nombre de fois où j'ai demandé à Dieu pardon pour la même bêtise, s'il devait tenir des comptes, où serais-je, moi, aujourd'hui? Où seriez-vous, aujourd'hui? le psaume 130, verset 3, qui dit « Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister ?» Le pourriez-vous, vous ? Avec un Dieu qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ?» Mais le psalmiste, il dit aussi « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Alors oui, pour moi, c'est une joie de savoir que j'ai un Dieu qui accorde le pardon, mais à en veux-tu, en voilà, sans restriction, sans tenir de compte, sans avoir un livre où il aurait pu aller consulter. Non, ça, c'est pas mon Dieu, ça. Et oui, nous sommes bien incapables de faire le bien incapables de rembourser notre dette. Mais le psalmiste nous dit que nous pouvons nous confier en l'amour de Dieu, qui nous pardonne et qui accueille avec cette grâce abondante, cette faveur que nous ne méritons pas. Mais, ou alors toutefois, si nous voulons le recevoir, cette grâce abondante, ou la recevoir, il nous faut faire une chose. Et cette chose, c'est de nous repentir. Et nous allons voir comment la parabole nous le montre ça. Le bonhomme vient de se faire pardonner. Ou en tout cas, on lui a remis toute sa dette. Il sort, il rencontre un collègue serviteur qui lui doit quelques deniers. Et sans hésiter, il lui demande le remboursement aussi. Allant jusqu'à le, en créole on dit gojeter, le tenir dans le collet pour lui mettre la pression. Rembourse-moi ce que tu me dois. Nos mémoires sont courtes parfois. Rembourse-moi mon argent. Je veux mon argent. Et la parole de Dieu nous dit, à travers cette parabole, qu'il n'a pas hésité à le jeter en prison jusqu'à ce qu'il puisse rembourser sa dette. Ce qui est une bêtise, puisqu'il est en prison, il ne peut pas travailler pour rembourser la dette. Mais vous voyez jusqu'où nous pouvons aller dans nos bêtises. Et en apprenant ce comportement, le roi adresse au serviteur de sévères reproches et le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ce serviteur à qui le roi remet sa dette, à qui on a fait grâce d'une somme colossale, une somme qu'il n'aurait jamais pu payer, a refusé de faire grâce à son collègue qui lui devait quelques billets. Alors qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire là? Ou en tout cas à ses disciples, avant nous. Qu'est-ce qu'il essaie de leur dire? Qu'est-ce qu'il essaie de dire à Pierre qui lui pose cette question? Peut-être que la première chose, c'est que ce serviteur qui, bien qu'ayant bénéficié de la grâce qui lui a été offerte, n'a pas eu un cœur repentant. Et ça, c'est la base. Il n'a pas eu un cœur repentant. Il a demandé du temps au roi, croyant qu'il allait pouvoir rembourser, mais en réalité, il n'a pas pris la mesure de la dette qu'il avait contractée. Il n'a pas réalisé combien il était incapable de payer cette dette. Et son attitude montre qu'il n'a jamais reçu le pardon qui lui a été offert. Et vous savez, ça arrive tout le temps parmi les enfants de Dieu. Dieu nous accorde son pardon et nous la refusons. Ce serviteur n'a jamais fait accueil à la grâce de Dieu. Et donc l'attitude du serviteur vis-à-vis de son collègue est jugé intolérable par le roi. Qu'est-ce que tu fais? T'as les mémoires bien courtes. Je viens de te remettre ta dette. Et toi, t'as pas été capable de remettre petite dette à ton collègue. Lui signifiant ainsi que l'accueil de la grâce doit susciter un mouvement de notre part. Si moi je te fais grâce d'une dette aussi énorme, toi en retour, tu dois pouvoir faire grâce pour des peccadilles, pour de petites choses. Et dans le cas contraire, moi le roi, je trouve ça intolérable. Et donc cette parabole montre que c'est la grâce de Dieu qui suscite la nôtre. Si Dieu nous fait grâce, nous devons pouvoir faire grâce. C'est l'amour de Dieu, amour reçu sans aucun mérite de notre part, qui entraîne notre amour pour les autres, qui entraîne nos cœurs vers les autres. C'est ici la base pour vivre l'amour que le Seigneur nous recommande et nous demande d'expérimenter. 1 Jean 4, 19 à 20, il nous dit, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Vous voyez toujours cette réciprocité entre Dieu et nous. Si nous aimons, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère ou sa sœur, c'est un menteur, dit la parole. Car s'il n'aime pas son frère, sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc ne me battez pas tout à l'heure. Cette parabole nous invite à une posture de pardon. Un pardon basé sur le pardon que Dieu lui-même nous a accordé et est prêt à nous accorder encore. Son pardon ne s'achève pas. Amen. Son pardon ne s'achève pas. La réponse de Jésus à la question de Pierre nous montre que le pardon ne compte pas les offenses. C'est un pardon, on peut dire, pluriel. 70 fois, 7 fois. Un pardon pluriel. Mais c'est aussi un pardon illimité dans son étendue. On ne tient pas de compte. Nous sommes appelés à pardonner toujours et encore, et encore, et encore, toutes les fois où il est nécessaire de pardonner. Nous pardonnons, parce que Dieu n'a de cesse de nous pardonner, encore et encore. Alors pour terminer, voici quelques questions que nous pourrions nous poser. Comment pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas m'avoir causé du tort? Vous n'êtes jamais posé la question, hein? Vous ne vivez pas sur terre. Comment pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas m'avoir blessé, m'avoir causé du tort? Si vous vivez une telle situation, si vous connaissez quelqu'un qui vous a blessé et qui refuse de reconnaître ses torts, comment lui pardonner? Une réponse à cette question, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de maintenir une posture de pardon. Soyez toujours ouvert, disposé à pardonner. Vous pouvez choisir de libérer cette personne dans le sens où vous ne chercherez pas à vous venger, sachant que la vengeance appartient à Dieu, dit-il. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas exiger de quelqu'un qu'il reconnaisse ses torts. Mais on peut entreprendre d'adopter une posture de pardon. ouvert pour accorder notre pardon. On peut entendre parfois certains prédicateurs demander à une personne lésée d'accorder son pardon à son agresseur, même en l'absence de repentance. Et j'entends ça souvent, malheureusement. Et avec de bonnes intentions, s'il vous plaît, hein, de manière à se décharger de la haine, de l'amertume engendrée par l'offense subie. Et s'il est vrai qu'une telle démarche peut aider la victime, elle tient davantage du domaine de la psychologie, mais pas du domaine de l'éthique. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Le pardon n'est pas automatique. Le pardon est accordé lorsqu'il est demandé. Seigneur, aie pitié de moi. Là, il pardonne. Pas avant. La victime n'a pas à ressasser continuellement les injustices subies, c'est vrai. Elle peut être libérée de toute amertume, sachant qu'un jour, justice sera faite. Mais entre-temps, elle avance, parfois péniblement, parfois en souffrance, parce qu'elle a mal, et c'est normal. Mais elle doit toujours adopter une posture de pardon, ouvert à ce qu'un jour, la personne vienne, comme par miracle, et lui demander pardon. Dieu est suffisamment grand pour ça, je pense. Une autre question que vous pourriez vous poser aussi. Est-ce que je peux pardonner et quand même demander réparation pour les préjudices occasionnés ? Tout à fait. Bien sûr que oui. La Bible elle-même enseigne beaucoup de choses concernant le bon équilibre dans les relations. Il faut bien comprendre ce qu'est le pardon, même que Dieu nous accorde. Si j'ai péché contre toi, mais de façon très profonde, et que je vienne te demander pardon, mais très sincèrement, hein, tu peux être blessé, très profondément même. Et même lorsque je te demande pardon, la blessure reste. Et le pardon que je peux t'accorder ne m'oblige pas ou ne nous oblige pas à reprendre notre relation comme si rien ne s'était passé. Chose que d'habitude on nous dit pas dans les églises. Et même, je le vois tout le temps avec des petits-enfants, les enfants se chamaillent, boum, boum, boum. Ah, il m'a tapé, ah, je veux plus jouer avec toi. Les parents qui arrivent, ta, 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 ta. Tu lui demandes pardon. Pardonne-moi. Faites-vous un câlin. Mes amis, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Certains d'entre nous ont vécu des choses difficiles et avons besoin de temps pour guérir. Nous ne sommes pas des surhommes. Il y a un temps pour toutes choses, nous dit l'Ecclésiaste. Et le pardon est un début. Oui. Le pardon est un début. Et si Dieu nous fait grâce, nous pouvons aller plus loin. Une autre question que je vous pose. Est-ce que vous tenez une comptabilité du mal qui vous a été fait? Pierre pensait qu'il fallait le faire. Est-ce que je dois aller jusqu'à cette fois? Et peut-être que nous aussi, nous, Nous pensons qu'il faut le faire pour qu'à un moment donné, on dit « ça suffit, tu as été trop loin là, ou c'en est trop, ou j'en ai assez. » Jésus qui lui répond « non Pierre, aucun compte n'est à tenir. » Parce que Jésus est mort, en tout cas pour nous. Au moment de Pierre, il n'était pas encore mort. Mais pour nous, Jésus est mort justement pour que nous ne puissions pas tenir de compte. Puisqu'il ne tient pas de compte envers nous. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? L'Écriture nous encourage à passer par-dessus les différends de la vie quotidienne. Car beaucoup de personnes, nous y compris, nous ne sommes même pas conscients parfois du mal que nous commettons. Et Dieu sait que nous en commettons, même inconsciemment. Même inconsciemment. Que le Seigneur nous aide à entendre ses avertissements et ses encouragements. Qu'il nous aide à nous y conformer nos vies. Et qu'il nous aide surtout à accueillir la grâce qu'il nous offre, de façon à ce que, en retour, nous puissions accorder, faire grâce aux autres, à ceux qui nous auront offensés. En nous rappelant toujours ceci, s'il comptait tous nos péchés, qui vivrait ? Je vous propose d'entonner ce chant en réponse à la prédication. C'est le 563.